Et bonjour à tout le monde. David Altar, à son habitude, m'a compliqué l'existence. Il m'a demandé que le sujet soit la sainteté d'Israël passe par la terre. C'est lui qui a l'entière responsabilité de ce titre. J'ai vu que dans la publicité, il a mis également, et pas seulement par les livres, mais par la suite dans le programme de ce matin, il y a seulement la sainteté d'Israël passe par la terre. Bon, évidemment, c'est un titre quelque peu provocateur parce qu'en fait, définir l'homme par la terre a toujours posé un problème. Vous savez que il y a eu toujours des tendances chez les nations à magnifier la relation envers la terre. On parle de la terre comme étant la mère patrie, le mot patrie venant lui-même du mot pater en latin qui veut dire le père. En hébreu, on a inventé dans l'hébreu moderne le mot moledet pour dire la patrie, moledet qui veut dire ce qui donne naissance. Or, il y a toujours effectivement un problème dans la relation de l'homme envers la nature de manière générale et envers le terroir de manière plus particulière, ne serait-ce que parce que l'homme est un être moral, tandis que la terre est un être amoral, c'est-à-dire en dehors du problème du bien et du mal. Et donc le problème, on peut dire dès le départ, il y a ici problème quand on affirme qu'il y a un rapport de l'homme à la terre. Ce qui donne des positions, disons philosophiques ou même parfois politiques, de refus de la terre. Par exemple, vous avez la doctrine de Abraham Heschel, grand penseur du judaïsme au XXe siècle, qui a considéré que la sainteté de la terre était en fait un compromis avec le paganisme. Alors tout ça, on va devoir aujourd'hui l'élucider. Tout d'abord, je voudrais mettre en évidence la relation envers les arbres. Étant donné que nous parlons aujourd'hui du Rosh Hashanah Laïlan, le début de l'an, le nouvel an de l'arbre, pas des, on dit en général Laïlanot, mais dans la Mishnah, c'est Laïlan. Et d'abord, je voudrais vous raconter quelques petites sources. D'accord? C'est vrai que la sainteté n'est pas seulement dans les livres, mais les livres nous enseignent beaucoup de choses. Tout d'abord, il y a dans la Torah un des 613 commandements qui est de s'attacher, d'adhérer à Dieu. Uvo titbak. C'est à lui, littéralement, que tu te colleras. Il faut se coller à Dieu. Ça veut dire quoi, se coller à Dieu? C'est quoi l'adhésion à Dieu? Alors, la Guémara formule la question de cette manière, elle dit, Vichy et Charlie Dabouke Bashechina, est-ce qu'on peut s'attacher à la Shechina, Va'alo Eshochlaï, alors qu'elle est un feu brûlant, un feu dévorant? Et la réponse, c'est oui, bien sûr, il y a des moyens de s'attacher à Dieu, et les sources variées donnent trois réponses possibles. La première, dans le traité de Ketubot, Hidabek B'talmidei Chachamim. C'est-à-dire, attache-toi aux sages de la Torah, aux Talmidei Chachamim, et alors, comme les Talmidei Chachamim sont eux aussi, ils sont faits de feu, donc ils peuvent s'attacher au feu dévorant qu'est la Shekhina, la présence divine, et donc en s'attachant aux Talmidei Chachamim, je m'attache à Dieu. Ça, c'est la première réponse. Autre réponse qu'on trouve dans le Sifri, Hidabek b'midotav, attache-toi aux vertus divines. Mahu rachum afata rachum, mahu chanun afata chanun. De même que Dieu est miséricordieux, eh bien toi aussi, tu seras miséricordieux et gracieux, chanun, et donc tu t'attacheras au Créateur puisque tu te comportes de la même manière que lui. Ça, c'est la deuxième interprétation. Et la troisième, celle qui nous intéresse, c'est dans le Midrash Vayikra Rabba, c'est plante des arbres en Eretz Israël. Ah bon, bizarre. Effectivement, parce qu'il est dit de Dieu qu'il a planté des arbres dans le jardin d'Éden. Et donc, quand nous plantons des arbres, nous limitons, limitatio Dei, c'est la limitation du divin. Et donc, de même que lui plante des arbres, eh bien, nous aussi, nous plantons des arbres. Et donc, quand on travaille au Keren Kayemet, ou dans un verger en Eretz Israël, eh bien, on s'attache à la divinité. Alors ça a besoin effectivement d'être expliqué, mais en tout cas, c'est ça que disent les sources. À ce propos, je voudrais vous citer un enseignement du Rav Shmuel Mohaliver. Le Rav Shmuel Mohaliver, personne, peut-être pas toujours très connue, mais très importante dans l'histoire du sionisme. Il s'agit d'un des grands maîtres en Russie, le Rav Shmuel Mohalever, qui a été à la tête, un des chefs de l'organisation appelée Chovevet Zion. Chovevet Zion, les amants de Sion, et le mouvement lui-même s'appelle Chibat Zion, c'est-à-dire l'amour de Sion, c'était un mouvement antérieur au sionisme politique de Herzl. Et c'est eux qui ont entretenu, fondé des implantations en Eretz Israël, qui ont fait refleurir la terre au XIXe siècle. On dit, ce n'est pas du tout évident, que Herzl ne connaissait pas cette entreprise et qu'il l'a découverte après avoir pensé au sionisme. Ce n'est pas du tout évident pour des tas de raisons qui concernent les historiens, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Et donc le Rav Shmuel Mohalever était un proto-sioniste, un paléo-sioniste, si vous voulez. D'ailleurs, il a été invité au premier congrès sioniste mondial par Herzl lui-même. Il n'a pas pu venir, il était déjà très vieux, il est mort dans la même année. Mais il a écrit à Herzl, c'est toi qui continues mon œuvre. Et il est tout à fait probable, en fait, que c'est le Rav Shmuel Mohalever qui a sionisé le Rav Kook. En effet, le Rav Kook était très jeune, le Rav Mohalever était déjà âgé, ils se sont rencontrés dans un lieu de, disons, de santé. C'est-à-dire, il y avait en Lituanie des endroits où, pour les vacances, les rabbins se rencontraient là-bas. On allait au zoo avant. Et c'est là, donc, que le Rav Mohalever a rencontré le jeune Rav Kook. Et c'est vraiment lui qui lui a donné cette impulsion très importante du sionisme qui allait devenir finalement le sionisme d'Atil Léoni. Bon, pourquoi je vous raconte tout ça? D'abord pour vous dire qui était le Rav Mohalever, mais je voudrais une citation de lui. Il y a plusieurs responsables de halakha du Rav Mohalever. Dans un d'entre eux, il discute avec quelqu'un des règles du maaser, la dîme, des fruits d'Eretz Israël, et il dit, entre autres, au passage, sache, dit-il à ce correspondant, que le plus grand espoir que j'ai dans ma vie est de monter en Eretz Israël et d'y planter un arbre. Et c'est ainsi que je saurai que j'ai fait quelque chose dans ma vie pour la restauration nationale. Et vous voyez donc un Talmid Chacham de très haut niveau, un des plus grands d'Israël, son rêve, c'est de planter un arbre en Eretz Israël. Et probablement, je pense qu'il connaissait, certainement il connaissait cette source du Vayikra Rabba, comme quoi la plantation des arbres en Eretz Israël est un attachement à la Shekhina. Ça explique d'ailleurs finalement cette coutume qui s'est développée à la même époque de planter des arbres en Eretz Israël à Tou Bichvat. Disons que, agronomiquement parlant, ce n'est pas la meilleure période. Tout agronome vous dira que planter des arbres à l'époque de Tou Bichvat n'est pas la meilleure des choses. Et donc c'est pour ça qu'on cherche des espèces qui peuvent malgré tout prendre racine à cette époque pour ne pas abandonner cette coutume. Cette coutume a été instaurée par le Rav Dr Ze'ev Ya'abetz, qui était enseignant à Mikvé Israël. Mikvé Israël, à nouveau, rappelons de quoi il s'agit, c'est une école agricole qui a été fondée par les chefs de l'Alliance israélite universelle, l'Alliance, le Kiar, Kol Israël Chavirim. C'est assez extraordinaire de voir qu'il y a eu une organisation internationale juive au début du 19e siècle, enfin, dans le premier tiers du 19e siècle, qui n'était pas d'ailleurs forcément sioniste. Cette organisation, l'Alliance israélite universelle, n'est pas une organisation sioniste, mais ils ressentaient intuitivement que planter des arbres en Eretz Israël était important, et donc ils ont ouvert une école agricole, Mikvé Israël, qui existe jusqu'à ce jour, qui est inclus dans la ville de Holon, et qui a permis justement la formation de nombreux agriculteurs en Eretz Israël. Et donc le Rav Zev Yavetz, lui, a institué cet usage de planter des arbres à Tou Bichvat. Et vous allez me dire, oui, d'accord, mais alors dans ce cas-là, il s'est complètement trompé. Il aurait peut-être qu'il aurait dû penser à autre chose. Non, il y a quand même une logique à cela. Vous savez qu'il y a, parallèlement à Tou Bichvat, il y a une autre fête qu'on appelle Tou Béav. Tou Béav, le 15 du mois de Av, à 6 mois de distance de Tou Bichvat. Si on compte le début de l'année à partir de Tishri, alors le premier mois, donc, c'est Tishri, et Av, c'est le 11e mois. Si on compte à partir de Nissan, alors, Nissan est le premier mois et le 11e mois, c'est Shvat. Or, il y a une halakha qui est que lorsqu'on plante des arbres fruitiers, on ne consomme pas les fruits des 3 premières années de la plantation de cet arbre. Ça s'appelle la orla. Orla, littéralement le prépuce, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est rejeté et c'est seulement à partir de la 4e année que l'on peut manger des fruits de l'arbre. Or, c'est compté. Quand est-ce que l'année passe? Ben, c'est compté à partir de Tou Bichvat. C'est dans ce sens-là que Tou Bichvat, c'est le nouvel an des arbres. Et il y a cette halakha également fait que il y a une autre halakha qui concerne également la orla, qui est que si un arbre a été planté avant le 15 Av, arrive Rosh Hashanah et c'est compté comme étant la 2e année. Donc d'abord, vous voyez qu'il y a un rapport entre le 15 Av et le 15 Shvat au niveau de la halakha. C'est-à-dire que la 4e année commence à Tou Bichvat, mais la première année commence à Tou Béav. Or, à Tou Béav, c'est donc le moment où on plante des arbres. Mais il y a aussi autre chose. Il y a que le monde, disons typologiquement parlant, a été créé 6 jours avant Rosh Hashanah. Et donc ça vous donne, si vous comptez à partir de Tishrei, ça vous donne donc le 25 Elul. Et si vous comptez à partir de Nissan, ça vous donne le 25 Adar. Et si vous comptez 40 jours avant le 25 Adar ou 25 Elul, ça vous donne Tou Bichvat et Tou Béav. Or, on dit que 40 jours avant la formation de l'homme, on annonce dans le monde de supérieur qu'un tel est fait pour une telle. C'est-à-dire, on prévoit déjà les mariages. C'est la raison pour laquelle le 15 Av, on faisait des danses matrimoniales pour marier les jeunes gens et les jeunes filles. De même, il y avait un usage qui est mentionné dans le traité de Guittin. Lorsqu'un garçon naissait, on plantait pour lui un cèdre, et lorsqu'une fille naissait, on plantait pour elle un cyprès. Et quand on se mariait, alors on prenait l'arbre planté pour le garçon et l'arbre planté pour la fille, et on en faisait la roupa. Donc il y a un rapport entre l'homme et l'arbre, qui d'ailleurs est mentionné dans la Torah à propos du siège d'une ville pendant la guerre. Quand on assiège une ville, la Torah dit, il ne faut pas abattre les arbres fruitiers parce que l'arbre n'est pas un homme pour t'attaquer. On dit, Ha'adam et Sassadé, l'homme serait-il un arbre des champs? Non, pardon, est-ce que l'arbre des champs serait un homme qui t'attaquerait? Et donc, il ne faut pas abattre les arbres. C'est ça le principe, donc, le rapport qu'il y a donc entre le 15 Av, qui est le jour où il est bon de planter des arbres, et le 15 Shvat, où c'est une habitude de planter des arbres. Donc vous voyez qu'il y a quand même un rapport. Bon, tout cela se réfère à un enseignement bien connu de la Guémara dans le traité de Sanhédrin à la page 98. 98A. Non. Non, non. 99. Sadiq-Tet Amoud Alef, c'est à la suite d'un débat qui oppose de manière très houleuse deux grands maîtres du Talmud. Il s'agit de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua ne sont pas d'accord pour savoir quelle est la condition de la Géoula, de la délivrance d'Israël. D'après Rabbi Eliezer, on ne peut être libéré que si on fait Teshuvah. D'après Rabbi Yehoshua, l'événement de la Géoula est tellement important qu'il ne dépend pas de la Teshuvah. Quoi qu'il en soit, Israël est libéré. tout un. Bon, je voudrais pas rentrer maintenant, disons, dans la problématique. Pourquoi est-ce que Rabbi Eliezer dit ce qu'il dit, Rabbi Yehoshua dit ce qu'il dit, mais en tout cas, il y a là-bas un débat houleux, où chacun assène un verset pour prouver qu'il a raison. Finalement, c'est Rabbi Yehoshua qui l'emporte, et Rabbi Eliezer se tait. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yehoshua, la Géoula, la délivrance d'Israël, ne dépend pas de la Teshuvah, du retour d'Israël à la Torah. Quoi qu'il en soit, Israël est sauvé. Effectivement, c'est ce qui se passe de nos jours, où nous voyons que le sionisme a réussi la délivrance d'Israël sans passer par la Teshuvah. Même parfois, je vais aller plus loin, c'est que c'est ceux qui ont quitté la tradition, ceux qui ont quitté le Beth Amidrash, qui eux font la délivrance d'Israël. Des gens comme Herzl, Ben Gurion, et tant d'autres. Et donc, c'est finalement donc le débat de la Guémara finit par la victoire, entre guillemets, de Rabbi Yehoshua qui dit la Géoula ne dépend pas de la Teshuvah. Là se pose le problème. Alors comment savoir si la Géoula est proche? C'est-à-dire si on admet l'opinion de Rabbi Eliezer, plus il y aura de mitzvot, plus il y aura de purification de la personne, plus nous sommes assurés d'être en route vers la délivrance d'Israël. Mais comme d'après Rabbi Yehoshua, la Teshuvah n'a rien à voir avec le retour d'Israël, la question se pose. Il y a ici une petite remarque. On ne parle pas. Attendez, attendez, attendez. Que je vois de quoi il s'agit. Attendez. Ah non, non, une seconde, une seconde, une seconde. J'ai raté mon. La Shemitah s'applique à Ella, ça n'a rien à voir avec là. On ne parle pas du rôle d'Edmond Rothschild. Une seconde. Durant le sionisme, son rôle est important. Il a fondé le proto-sionisme avant Herzl. C'est une injustice. Shalom Aleichem, je vous supplie d'excuser mon arrivée tardive. Oh là là, je vais devoir y penser. Mais en tout cas, c'est le Rav Shmuel Mohi Lever qui a convaincu le baron de Rothschild de soutenir les implantations en Eretz Israël. Et nous allons bientôt en discuter, effectivement. Ne vous en faites pas, pas d'injustice. Donc je reviens à la question qui se pose. Si c'est Rabbi Yehoshua qui a raison, alors comment savoir que nous nous approchons du temps de la Géoula? Et alors, la Guémara répond par un enseignement de Rabbi Abba. Rabbi Abba, qui vit quelque chose comme 4 ou 5 générations après Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, nous dit, nous saurons que la fin est proche et de manière totalement évidente lorsque s'accomplira le verset d'Ézéchiel qui est, et vous, montagne d'Israël, donnez vos branches et portez vos fruits pour mon peuple Israël, car ils vont bientôt revenir. Et la Guémara dit, il n'y a pas de fin plus évidente que celle-là. En chaketz megoulé misé. C'est une évidence, lorsque les fruits d'Israël, de la terre d'Israël seront abondants, c'est là que nous savons que la Géoula est proche. Effectivement, lorsqu'au XIXe siècle, grâce aux efforts donc de Rabbi Shmuel Mohi Lever et du baron de Rothschild et des pionniers de l'époque, la terre a commencé à refleurir, c'est alors que les rabbins en Pologne, en Russie, ont dit, nous savons que la Géoula est proche, c'est pour ça qu'ils ont soutenu le mouvement des Chovevet Sion, des amants de Sion. Nous savons, aujourd'hui nous n'avons plus besoin de ces signes. C'est-à-dire, ce que dit la Guémara des fruits d'Eretz Israël, c'était un signe avant-coureur. Mais maintenant que c'est fait, eh bien c'est fait. Depuis la fondation de l'État d'Israël, nous savons que la Géoula a eu lieu. Maintenant, la question est de savoir pourquoi est-ce que c'est ce signe-là qui est tellement important? Tout simplement parce que, et là ça devient quelque chose de plus général, c'est que la Géoula, la délivrance, c'est la délivrance de tout. Or, le tout passe également par le plus terrestre possible, c'est-à-dire la dimension agricole. C'est comme ça que ça se passe. Il y a, pour se faire une idée de ce qui s'est passé en Eretz Israël, Rappelez-vous, deux voyageurs du 19e siècle, un certain français du nom de René de Chateaubriand, vous avez certainement entendu parler, et l'autre un américain du nom de celui qui a écrit Tom Sawyer, Samuel Clemens, qu'on appelait Mark Twain. Quand Chateaubriand arrive en Eretz Israël, sur la route de Jaffa à Jérusalem, il rencontre un arabe, c'est tout, qui s'appelait Abou Ghosh, le fondateur du grand village d'Abou Ghosh, qui est sur la route de Tel Aviv-Jérusalem. Et pour tout vous dire, donc, Chateaubriand rencontre une famille seulement sur la route entre Jaffa et Jérusalem. Et la terre est entièrement désolée, Jérusalem est repoussante. C'est ça, c'est au début du 19e siècle. Un peu plus tard arrive Mark Twain et il dit: la terre est déserte, elle est cette terre qui auparavant était tellement riche, tellement riante. Aujourd'hui, cette terre est complètement abandonnée. Il y a quelques Arabes qui sont venus amenés par le vent du désert et que le vent du désert pourra ramener. Et tout se passe, dit-il, comme si cette terre attendait ses propriétaires légitimes. Donc on voit bien que ce signe a commencé à s'accomplir. Et d'ailleurs, ça fait partie des bénédictions de la terre. Et effectivement, dans la paracha de Béchoukotaï, quand il y a là-bas le contrat entre Israël et Dieu, à propos de l'histoire, si vous vous comportez, Béchoukotaï, si vous suivez mes commandements, alors ça ira bien, si vous ne les suivez pas, ça ira mal. Là-bas, il est question également de l'éventualité de l'exil. Et la Torah nous dit, et lorsque vous serez exilés, vos ennemis qui habiteront la terre à votre place seront eux aussi désolés. Et là, Nachmani, le Ramban, dit que c'est un bon signe. C'est un bon signe que la terre soit désolée pendant l'absence d'Israël pour dire qu'aucune nation n'arrivera à y prendre racine. Effectivement, ni les croisés, ni les Arabes, ni les Byzantins, ni les Anglais n'ont réussi finalement à s'implanter dans cette terre, parce que la terre refusait ceux qui n'étaient pas son compagnon légitime. Et là, ça veut dire qu'il y a entre la terre et la nation d'Israël une relation conjugale, une relation de couple dont nous allons devoir parler par la suite. Et donc tout cela est très fort. Ça veut dire qu'en fait, les événements de l'histoire confirment l'équation dont parle la Torah, c'est la relation d'amour entre Israël et sa terre qui se traduit par la résurrection agricole qui est le signe évident de la Géoula. Il y a à ce propos une objection. Un des rabbins a écrit que ce texte de la Guémara qui parle des fruits d'Eretz Israël n'a pas été mentionné par Maïmonide. Et donc, il ne fait pas partie de la halakha, et donc, ça serait une erreur de dire que nous vivons aujourd'hui le temps de la Géoula parce que les fruits ont commencé à être portés par les arbres d'Eretz Israël. Et donc, il ne faut pas se tromper, les sionistes ont tort de penser que la résurrection agricole serait un signe de la Géoula. Et tout ça parce que Maïmonide ne l'a pas mentionné. Or, cette opinion est une erreur, Maïmonide l'a mentionné. Où est-ce qu'il l'a mentionné? Il l'a pas explicitement, mais implicitement. Vous savez qu'il y a une règle dans la halakha, que si on a interverti l'ordre des bénédictions dans la Amida, dans la prière, alors on ne s'est pas acquitté de son devoir, il faut refaire la prière. Et pourquoi c'est comme ça? C'est parce que l'ordre des bénédictions est déduit de versets de la Bible. Or, il y a la bénédiction de Tekab Shofar Gadol, celle qui parle du rassemblement des exilés. Elle vient juste après la bénédiction qui parle de la pluie et de la bénédiction en Eretz Israël. Et le Talmud dit, mais pourquoi c'est comme ça? C'est parce que Ézéchiel a dit qu'il faut que les fruits d'Eretz Israël soient portés pour qu'Israël puisse revenir. Or, comme Maïmonide, comme tous les poskim d'ailleurs, a fixé la halakha comme quoi l'ordre des bénédictions était impératif, ça veut donc dire qu'il admet cet enseignement de la Guémara. Il y a dans le traité de Shabbat une histoire à propos de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous connaissez cette histoire. Rabbi Shimon Bar Yochai prend la fuite parce que les Romains veulent l'assassiner. Il se cache dans une grotte. Il y reste pendant 12 ans. Il est là-bas. Il établit les fondements de la Kabbale, du Zohar. Et il sort après 12 ans et il voit des hommes labourer le sol. Rabbi Shimon Bar Yochai est très en colère. Il dit, comment ils abandonnent la vie éternelle pour la vie éphémère? Il brûle de son regard les agriculteurs. Une voix du ciel se fait entendre et lui dit, attends, attends, tu n'es pas venu, tu n'es pas sorti de la grotte pour détruire mon monde, rentre dans ta grotte à nouveau. Il rentre dans la grotte, après un an, il sort et il fait teshuva et bien que son fils soit devenu fanatique comme lui répare les erreurs de son fils et il accepte que le monde soit construit. Alors il faut comprendre, pourquoi est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai s'oppose au travail de la terre alors que c'est une mitzvah? Tout simplement parce que c'était le temps des Romains. Or, à l'époque des Romains, de la domination romaine, l'entretien de l'agriculture en Eretz Israël ne fait que renforcer l'économie de l'Empire romain. Donc c'est pour ça qu'il s'y oppose. Et d'ailleurs, ça explique, il y a un texte parallèle à cela, un Rabbi Chiya, c'est une génération plus tard, se rend dans un endroit appelé Gavla, et il voit là-bas que les vignes portent leurs fruits. Les raisins sont abondants, et il dit, Terre, terre, fais rentrer tes fruits. Pourquoi donnes-tu ces fruits à nos ennemis? Et effectivement, les vignobles se sont desséchés. Donc ça veut dire que pendant le temps de l'exil, nous ne voulons pas que la terre fleurisse, et lorsque nous la faisons refleurir, c'est que l'exil est en train de finir. À ce propos, racontons une petite histoire du Rav Hillel Seitlin. Le Rav Hillel Seitlin, comme vous le savez, ou vous ne le savez pas peut-être, était un publiciste qui a écrit beaucoup d'articles dans la presse, des études, enfin c'était quelqu'un d'extrêmement d'horizon extrêmement large, qui vivait en Pologne, qui à un moment de sa vie, bon il avait grandi dans le chassidisme de Chabad, il a quitté la religion, il est revenu à la religion, etc. Et il raconte, finalement il s'est fait assassiner par les Allemands dans le ghetto de Varsovie. Mais disons qu'avant tout cela, il s'est rendu en Eretz Israël à l'époque du mandat britannique. Il arrive en Eretz Israël de l'époque, il voit la terre en train de refleurir. Il se rend chez le Rav Chaim Yosef Zonnenfeld, Yosef Chaim Zonnenfeld, à Jérusalem, qui était le grand opposant au sionisme à l'époque, opposant du Rav Kook d'ailleurs, et il dit à ce rabbin, je suis émerveillé par ce que je vois en Eretz Israël. Je vois que les pionniers reconstruisent le pays, qu'ils font fleurir le sol. C'est merveilleux. Et le Rav Zonnenfeld lui répond, tais-toi. C'est tous ces pionniers dont tu parles, finalement, ils transgressent le Shabbat, ne mangent pas kasher, ils vivent sans la pureté familiale. Tout cela est très grave. Bien que le Rav de Jaffa, il parle du Rav Kook, les rapproches, moi je les écarte de moi. Question du Rav Seitlin, oui, mais enfin, Kvodarav, il se passe quand même quelque chose ici. Et alors le Rav Zenfeld répond, c'est vrai, il est évident que si Akadosh Baruch Hu les a ramenés ici, c'est qu'il a un projet, mais cela fait partie des secrets de la Torah. Or, quand il y a opposition entre les secrets et la partie révélée de la Torah, nous allons selon la partie révélée. Bon, il quitte le Rav Zonnenfeld, il se rend chez le Rav Kook. Et il tient un discours tout à fait opposé. Il dit au Rav Kook, depuis que je suis arrivé en Eretz Israël, je suis effrayé de voir la transgression du Shabbat, le fait que les gens ne mangent pas kasher, qu'il n'y a pas de pureté familiale. C'est terrible ce qui se passe là. Réponse du Rav Kook, tais-toi. Ils amènent le Mashiach. Alors, réponse du Rav Seitlin, oui, mais ça, c'est selon les secrets de la Torah. Mais quand il y a opposition entre les secrets et la partie révélée, nous allons selon la partie révélée. Vous voyez qu'il a eu le temps de bien apprendre sa leçon chez le Rav Zonnenfeld. Réponse du Rav Kook, c'est vrai, pendant toute l'histoire, sauf à l'époque messianique. À l'époque messianique, on juge en fonction de l'intériorité. Il amène un texte du Zohar qui le dit. Et donc, c'est tout ça pour vous expliquer que traditionnellement, Shalom Ravuri Cherki, Tu Bishvat, Sameach. Oh, comme c'est gentil. Bon, tout ça, c'était pour vous mettre en évidence le fait que d'après les sources, l'agriculture en Eretz Israël n'est pas simplement un gagne-pain, c'est quelque chose de beaucoup plus important qui représente la capacité de la Géoula. Une seconde. Continuons. Donc, alors maintenant, je voudrais rentrer un peu plus profondément dans la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est que cette sainteté de la terre d'Israël? En quoi est-elle si importante? Alors, tout d'abord, je voudrais avoir continué à nouveau une petite anecdote, qui est que les élèves de Rabbi Nachman de Breslav sont arrivés en Eretz Israël. Arrivés en Eretz Israël, ils sont effrayés. Parce qu'ils envoient une lettre à leur maître. Et ils lui disent, nous sommes arrivés en Eretz Israël et nous avons vu que c'est de la terre, du terreau. Et ils étaient persuadés que rentrer en Eretz Israël, c'était rentrer dans une sphère totalement spirituelle. Et il dit, ben, nous avons découvert que c'est du terrain comme le terrain en Pologne. Réponse de Rabbi Nachman qui leur a dit, ne vous en faites pas, ça a l'air d'être de la terre, mais en vérité, ça vient de très haut. Et même le ciel en Eretz Israël n'est pas le même ciel qu'en Houtzlaret. D'accord, c'est pour vous dire, et soit dit en passant, le même Rabbi Nachman de Breslav un jour donnait un cours dans lequel il a dit qu'il était important de monter en Eretz Israël. Et il en a parlé pendant 1 heure. À quel point c'est important de monter en Eretz Israël et combien c'est facile aujourd'hui de le faire, beaucoup plus qu'avant. Il y a des bateaux, il y a des diligences, tout cela peut se faire facilement. À la fin de son discours, Rabbi Nathan, son grand élève, dit à son maître, Rabbi Nachman, quand vous avez dit maître Eretz Israël, ça voulait dire quoi? Réponse de Rabbi Nachman, ça veut dire ce que ça veut dire. Il s'agit des maisons et des cours qui sont à Jérusalem, Tibériade, Tsfat et Hébron. Et je veux que tout Israël y arrive. Alors Rabbi Nathan dit, c'est alors que j'ai compris des allusions de ses paroles qu'il voulait que nous soyons tous en Eretz Israël. Alors, il en avait parlé pendant 1 heure, mais si Rabbi Nathan n'avait pas posé la question, on n'aurait pas compris ce qu'il voulait dire par Eretz Israël. Alors, il y a ici une petite question sur les chassidim de Satmar. C'est une seconde, une seconde. Je voudrais que répondre au... Ah, là, là. Toujours de problème ici.
Voulez que je vous lise la
Je vous
question?
pose d'excuser le dérangement. Que répondre aux chassidim du Satmar qui affirment qu'avant l'arrivée des agriculteurs sionistes, les Palestiniens exportaient massivement des oranges de Jaffa, donc la terre était fertile avant l'arrivée des agriculteurs sionistes. Évidemment, la Géoula n'a pas commencé par les sionistes, elle a commencé par un mouvement antérieur. Qui étaient les amants de Sion, effectivement, et c'est là que ça a commencé, donc, par exporter des oranges. Il n'y en avait pas des grandes quantités, ce n'est pas massif, c'est pas vrai du tout, mais c'était le début de l'agriculture. Petite remarque, c'était en opposition avec les instructions express des rabbins charédim de Jérusalem, qui ne voulaient pas que l'on fasse autre chose que l'étude de la Torah. Certains disaient même que c'était une profanation de la terre que d'y mettre une pomme de terre, de planter des pommes de terre dans une terre sacrée. Bon, vous comprenez que tout cela a été démenti par l'histoire. Mais là, je voudrais revenir à une question beaucoup plus fondamentale, ce qui est de savoir. Attendez là. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors, merci. Ah, merci, vous avez dit, d'accord. Donc, la question est de savoir qu'est-ce que c'est que la sainteté de la terre? Il y avait un. Donc, Abraham Heschel, nous avons parlé au début de notre étude. Abraham Heschel, le grand penseur existentialiste du XXe siècle, qui vivait en Amérique, qui malheureusement s'est allié à la. Au mouvement conservatif en Amérique, bon, mais ça c'est, disons, secondaire chez lui. Il affirme dans un de ses livres que sanctifier le sol, donner une sainteté à un territoire, c'est vrai que la Torah en parle, mais en tant que compromis. C'est un compromis entre la Torah et le paganisme après la faute du veau d'or. Et ce, pourquoi? Parce que le veau d'or a été la preuve qu'Israël n'arrivait pas à se dégager du paganisme, et donc il a fallu que Dieu ordonne de construire un tabernacle, un lieu donc topographique dans lequel Dieu se manifeste, et tout cela serait le fruit d'un compromis. Bon, c'est une erreur étant donné que déjà juste après après le don de la Torah, il est question de l'emplacement de l'autel. Il en est de même pour ce qui est du cantique de la mer Rouge, où il est dit que lorsque tu nous amèneras dans ta montagne sainte, c'est alors que on lui construiront un sanctuaire, Mikdash Hashem Konenu Yadera. Mais cette réticence par rapport à la sainteté de la terre peut être comprise, étant donné que c'est la conscience d'une énergie puissante dans le sol qui a amené à l'idolâtrie cananéenne. Je vous demande, pardon, à nouveau, il y a ici un dérangement. C'est réglé? Oui, j'en étais là. Donc, il y a donc une réticence, effectivement, à cause du paganisme. Et là, il faut bien comprendre la différence. La différence, c'est que pour les idolâtres, il y a une sainteté de la nature qui est intrinsèque à la nature elle-même. C'est ce qu'on appelle de l'animisme. L'animisme, c'est attribuer une vitalité à un arbre, une vitalité à une source, une vitalité à tout être sur Terre, et cette vitalité serait indépendante de sa source. Tandis que ce que nous appelons Kedusha Shebateva, la sainteté qui est dans la nature, eh bien, cette sainteté qui est dans la nature a pour origine le Kodesh Elyon, c'est-à-dire la sainteté suprême, qui, elle, a son origine dans l'infini. Et c'est cela que la Torah dit quand elle dit Abed te abedun et kol amekomot asher avdu sham agoyim, vous devez détruire tous les lieux dans lesquels les nations ont fait leur culte. De quoi s'agit-il? C'est que les nations avaient tout d'abord une sanctification du lieu avant de créer leur culte. Tandis que la Torah dit: vous ne ferez pas ainsi pour l'Éternel, vous irez au lieu que Dieu choisira. Et la makom asher yivchar Hashem. Or, ce lieu que Hashem choisit, il le choisit non pas parce qu'il y a une énergie particulière, mais c'est parce que c'est lui qui le veut. C'est la raison pour laquelle, par exemple, le mont Sinaï n'a plus la même sainteté depuis que la Shekhina a quitté l'endroit du Sinaï. Pendant le don de la Torah, il était interdit de monter sur la montagne, mais après le don de la Torah, la montagne a été désacralisée. Et en fait, il y a ici une erreur de la part des explorateurs. Vous connaissez la faute des explorateurs dans la Torah, lorsque ils disent cette terre mange ses habitants. Eretz ochelet yoshevea. Ils ont compris quelque chose. D'habitude, celui qui mange, c'est l'habitant qui mange la terre. Effectivement, la terre donne ses fruits, les fruits sont mangés par les hommes, et donc il y a une élévation de la nature à la dimension de l'humain. Mais par contre, en Eretz Israël, c'est la terre qui dévore ses habitants. C'est-à-dire, c'est la terre qui va définir le type humain qui va ici développé. Effectivement, on voit, et c'est ça qui a fait peur aux explorateurs, mais ils n'ont pas compris qu'ils n'avaient pas de raison d'avoir peur parce que il y a des, disons, des stratagèmes de la Torah qui font que l'on est sauvé de la puissance du sol, entre autres par la Shemitah, par le fait de respecter l'année sabbatique, donc de se détacher quelque peu de la terre, certes, à un moment de la vie, et également par l'éventualité de l'exil, qui fait que on n'est pas, quand la terre nous menace, alors nous la quittons. Mais il y a également quelque chose de très fort qui est que on change quand on est en Eretz Israël, et ça on peut le voir chez des gens qui ont fait leur aliyah depuis longtemps. Quand quelqu'un fait son aliyah depuis plusieurs années, depuis plusieurs dizaines d'années, c'est alors qu'on voit qu'il y a un changement dans l'être qui se fait à l'insu de la personne. Et c'est ça donc qui est, c'est ça que la terre nous fait. Et là, il faut bien comprendre quel est l'arrière-plan idéologique de la philosophie de l'époque des premiers pionniers en Eretz Israël. C'était la philosophie de Nietzsche. Nietzsche affirmait que la morale avait affaibli l'homme, parce que la morale dit à l'homme de comprimer ses pulsions, ce qui peut être bon, effectivement, étant donné que parfois l'homme est porté à faire le mal. Mais ce à quoi Nietzsche, Friedrich Nietzsche, aspirait, c'était à créer ce qu'on appelle le surhomme, le surhumain, Übermensch en allemand. Et donc de faire quelque chose qui ramènerait l'homme à la nature et qui lui restituerait sa pleine stature. Alors évidemment, ce genre de discours a engendré des catastrophes, par exemple dans le fascisme, dans l'hitlérisme, quand il a été question de ramener l'homme à la dimension antérieure, disons, on peut dire le sauvage. Et ce que ça Et donc on peut comprendre que ça n'a fait que renforcer la réticence des rabbins par rapport à la nature. Mais ce que dit le Rav Kook, c'est que Nietzsche a raison en Eretz Israël. C'est-à-dire que la sainteté de la terre d'Israël fait que le retour à la nature n'entraîne pas une décadence morale, mais au contraire entraîne une ascension morale qui finalement amène le retour des prophètes. Ça vous explique par exemple pourquoi est-ce que quand le Rav Kook a fait son voyage dans les implantations en Eretz Israël, le fameux Massa à Moshavot, et quand il est arrivé dans les kibboutzim, il a rencontré la sainteté d'Eretz Israël. Il a expliqué aux pionniers de l'époque, qui n'étaient pas religieux, nous ne sommes pas venus donner, nous sommes également venus recevoir. À ce propos, je vous raconter une anecdote qui n'est pas très connue. C'est que quand le Rav Kook est arrivé dans un des premiers kibboutzim dans la vallée d'Israël, il a dansé avec les pionniers c'était dans le hangar du kibboutz. À l'époque, il faut bien comprendre, les kibboutzim, c'était quelques petites cabanes, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas toujours de quoi manger. Ils ont dansé dans un hangar. Au toit du hangar était pendu un cochon. Et le cochon, disons, dégoulinait de sang. Et le sang est arrivé dans une sorte de... Il faisait une flaque autour de laquelle les pionniers dansaient, et le Rav Kook aussi dansait avec eux. Quelqu'un lui a fait remarquer, mais Kvodara, vous voyez autour de quoi vous dansez? Et il dit, ne fais pas attention à ça. Et ça veut dire qu'il ne faut pas faire attention à ça parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui se passe. Donc on peut dire que en Eretz Israël, aujourd'hui, la relation à la terre nous transforme et fait que nous sommes ce que nous devons devenir un jour. Alors il y a ici une petite question. Alors, cher Rav, quand je plante des arbres en Israël, je contribue à faire venir la Géoula? Non, la Géoula a déjà eu lieu en 1948. mais vous contribuez à l'accomplissement, à l'achèvement de la Géoula et à l'attachement au Créateur du monde. Il y avait un rabbin très connu, le Rav Chaim Drukman, qui était un des grands maîtres du mouvement sioniste religieux, qui raconte dans une émission à la radio, qui a raconté dans une émission à la radio comment il est monté en Eretz Israël. C'était pendant le temps de la Shoah, et il avait réussi à quitter l'Europe, et finalement, il raconte qu'il est dans le train qui l'amène depuis Constantinople, Istanbul, en Eretz Israël. Et quand il arrive au sud du Liban, il entre en Palestine de l'époque et il voit un agriculteur qui porte des tzitziot, les franges saintes. Et c'est alors qu'il a compris qu'il était revenu à la maison. Et là se pose la question de savoir pourquoi certains font leur aliyah et d'autres ne la font pas. En fait, on peut dire que revenir en Eretz Israël, c'est revenir à la maison. Et parfois la maison nous appelle, parfois la maison ne veut pas de nous. Manitou expliquait qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens font leur aliyah, en tout cas les gens inventent des raisons. Certains vous diront, j'ai fui l'antisémitisme. Ah bon? Et comme si en Eretz Israël, on n'avait pas des ennemis. D'autres disent, je suis venu en Eretz Israël pour participer à la révolution socialiste. Et la question se pose, oui, mais tu pouvais très bien participer à la révolution socialiste en Europe. D'autres diront, je suis monté en Eretz Israël pour donner une éducation juive à mes enfants. Ah bon? Mais il y a des écoles juives en Khoutzlaretz. Il y a des écoles pas très cachères en Israël. Et tant et tant d'autres raisons qui se donnent, il y a toute une liste de raisons. Et non seulement il y a des raisons pour lesquelles que l'on prétend être la raison de son alia, c'est qu'on est même prêt à fonder des partis politiques pour défendre ses idées. Mais en vérité, disait Manitou, tu es monté parce que tu devais être là. Et c'est pour ça que tu es là. Et que ton frère, qui n'était pas fait pour être là, n'est pas là. Comment ont-ils fait pour trouver un cochon en Eretz Israël? Oh, il y en a plein. C'est pas si difficile que ça. Et donc, jusqu'à ce jour d'ailleurs. Et surtout dans la nature, il y a des sangliers, il y a toutes sortes, etc. D'ailleurs, vous avez qu'à aller dans les villes chrétiennes d'Israël, à Nazareth par exemple, vous en trouvez tant que vous voulez, hein, c'est pas un problème. Bon, si ça vous intéresse, hein, mais je ne pense pas que vous êtes intéressé à acheter un cochon. Il y a, on va dire, une sorte de destinée qu'on fait qu'on revient à la maison. Et rappelons une chose importante. La relation que nous entretenons avec la terre n'est pas comme celle de la mère patrie, mais celle de la du couple. En effet, si il y aurait donc des juifs pas faits pour être là, participent-ils au projet collectif malgré tout? Ils ont un travail à faire. Et donc, pour revenir à la relation conjugale, la mère d'Israël, la mère patrie, celle qui nous a donné naissance, c'est l'Égypte. Et alors, et il ne faut pas revenir chez sa mère, sinon ça fait un complexe d'Œdipe qu'il faut surmonter. Donc, c'est pour ça que la Torah nous dit de ne pas revenir en Égypte. Mais elle nous dit de nous marier. La relation envers la terre, c'est la relation homme-femme. Tandis que l'être collectif d'Israël est appelé Adam. En effet, le prophète Ézéchiel dit, Ve'atem tzonit tzon mariti Adam atem, vous êtes mon troupeau que je fais paître, vous êtes un homme. Adam atem, vous êtes Adam. Or, le féminin du mot, donc c'est-à-dire que le mot Adam représente Israël en tant qu'identité collective. Et la dimension féminine de Adam, en hébreu, pour dire le féminin de Adam, vous dites Adama, la terre. Or, on ne choisit pas qui est sa mère, mais on choisit qui est sa femme. il faut le mériter. Parfois, il y a des scènes de ménage. Parfois, la terre nous rejette. Parfois, la terre nous avale. Et donc, c'est une relation morale envers la terre. C'est pour ça que Rachid dit que Dieu a donné la terre, la Asher Yachar, à celui qui est droit. Mais attention, c'est quoi droit? Rachid rajoute Be'enav, à ses yeux. C'est-à-dire, la droiture n'est pas toujours, disons, mesurable en fonction des critères immédiats, tels que par exemple la religiosité. La droiture est quelque chose qui est dans l'être intérieur. Pourquoi le Rambam vivait-il en Égypte et pourquoi il y a eu une grande communauté prospère à Alexandrie à l'époque de Philon? Ah, effectivement, ces problèmes sont énormes. La Guémara dit que la communauté d'Alexandrie, justement, a transgressé l'interdiction de la Torah. Le Rambam vivait en Égypte parce qu'il n'avait pas le choix. C'est tout à fait autre chose. Bon, ça a été débattu dans les livres de Halakha, nous n'allons pas rentrer là-dedans. Je rappelle il y avait un historien romain du nom de Tacite. Tacite a écrit plusieurs livres d'histoire. Dans un d'entre eux, il parle également de la conquête de Jérusalem par Titus. Et il se pose une question, c'est de savoir pourquoi est-ce que les Juifs à Jérusalem ont lutté avec acharnement, même lorsqu'ils savaient qu'ils étaient en train de perdre la bataille. Il dit parce que les Juifs savaient que s'ils se rendaient, ils seraient envoyés en exil. Or, dit Tacite, pour eux, quitter leur terre, c'est pire que la mort. Rendez compte? C'est-à-dire que les Juifs de l'époque, il ne fait que mentionner, disons, un comportement qu'il a pu constater. Pour les Juifs de l'époque, quitter leur terre était considéré comme la mort. Maintenant, j'aimerais comprendre pourquoi. Alors là, il faut se référer aux origines. Vous savez que c'est classique, hein? Dieu a conclu une alliance avec son peuple. Mais l'alliance porte sur quoi? Alors on pourrait dire l'alliance c'est la Torah. Non, non, mais pas du tout. Vous avez qu'à voir dans le livre de Béréchit. Sept fois, il y a une alliance entre Dieu et les patriarches, avec Abraham, Isaac et Jacob. Et à chaque fois, cette alliance porte sur la terre. C'est-à-dire Dieu dit à Abraham, à ta descendance, je donne cette terre. Donc il lui promet déjà donc deux choses. Il lui promet d'avoir une descendance et il lui promet la terre pour cette descendance. Or, une terre prise en possession par sa descendance, c'est quoi? Eh bien, c'est une entité politique. C'est-à-dire, la sainteté de la terre passe par la dimension politique, par l'État, et non pas par l'individu. Et c'est la raison pour laquelle, à partir du moment où nous avons notre indépendance politique, à partir de ce moment-là, la terre prend une importance qu'elle n'avait pas auparavant, en tout cas qui était occultée. Et donc, c'est ça qui se passe à ce moment-là. Lorsque Israël revient sur sa terre, il accomplit l'alliance entre Dieu et ses ancêtres. Qu'en est-il de la Torah? Évidemment, il y a en plus de la promesse de la terre, il y a également la promesse de la Torah. D'accord, mais cette Torah, quel est son lieu? La Torah a été donnée en dehors de Canaan, c'est vrai. Mais elle doit être accomplie en Canaan. C'est pour ça que Moshe dit plusieurs fois dans la Torah, je vous donne ces lois pour les accomplir sur la terre que Dieu vous donne. Ce qui explique ce texte du Midrash Rabbah qui dit, à propos de l'or qui est donné qui est dans une terre que quand la Torah parle dans Bereshit des quatre fleuves, elle dit, qu'il y a un fleuve qui entoure le pays où l'or existe. Et la Torah dit, Uzeha va aretz, et l'or de ce pays est bon. Et le Midrash de dire, c'est quoi bon? C'est la Torah. Parce qu'il est dit qu'il est kartov torati, quand je vous ai donné une bonne part, n'abandonnez pas ma Torah. C'est donc que la Torah est appelée le bon. Et à Aretzahi, ce pays-là, dit le Midrash, il s'agit d'Eretz Israël. Et Et là, on dit, c'est pour ça que le Midrash dit, En Torah ke Torah Teret Israël. Il n'y a pas de Torah comparable à la Torah Teret Israël. Alors vous allez me dire, oui, d'accord, mais alors il y a la Babylonie, et la Babylonie, c'est là qu'on a écrit le Talmud de Babylone, c'est en dehors d'Israël. Et là, à nouveau, la Guémara nous dit, oui, mais c'est une Torah dans l'obscurité. C'est-à-dire qu'il y a un verset dans les Lamentations de Jérémie, dans Echa, qui est bah, Mahashakim ou Shivani Kemeter Olam, il m'a installé dans l'obscurité comme les morts éternels. Et la Guémara de dire, le Talmud de Babylone annonce, ça c'est la Torah de Babylone. C'est une Torah dans l'obscurité qui illumine dans l'obscurité. Mais ce n'est pas le lieu de la révélation. Et donc c'est une Torah affaiblie. À tel point même que y a un dialogue dans la Guémara qui raconte qu'un des sages d'Eretz Israël dit à un sage de Babylone, vous dites des choses obscures parce que vous vivez dans l'obscurité. Amaritu mile de Hashocha. Il y a ici une petite question. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Toujours problème. Quand Nietzsche dit que la morale affaiblit l'homme, il parle d'une morale qui coupe la vitalité, qui rend l'homme incapable d'assumer la vie, le corps, l'action, la création. Nietzsche veut dépasser la morale, le Rav Kook veut l'élever. C'est vrai. La relation avec la terre d'Israël est un couple homme et femme. Israël est la femme, donc c'est la femme qui a choisi l'homme. Non, Israël, c'est l'homme et la terre, c'est la femme, selon les images données par les prophètes eux-mêmes. Merci, cher Rav. Shir HaShirim résume-t-il toute cette dimension d'amour entre la terre et l'homme? Le Shir HaShirim résume toute la dimension d'amour en général entre Dieu et son monde, entre l'âme et le corps, entre Israël et sa terre. On doit aimer la terre d'Israël comme on aime une femme, on se marie religieusement à la terre ou civilement? Très très bonne question. C'est tout d'abord civilement, vous savez que la loi en France c'est qu'il faut d'abord passer le mariage civil, ça a été donné donc par la Société des Nations qui a donné la terre d'Israël, la terre de Palestine à l'époque aux Anglais pour y fonder un État. C'est-à-dire le mandat britannique, et puis après, ça devient religieux quand c'est le peuple d'Israël qui se libère. Alors là, il y a ici une petite question de Yocheved Mikou. Allez-y.
Oui, j'ai plusieurs questions, mais je vais choisir une. À un moment donné, vous avez parlé de l'idéologie qui était dans l'arrière-fond, dans l'arrière-plan des premiers pionniers. Vous avez fait référence à Nietzsche.
Oui.
Et après, vous avez expliqué que le Rav Kook avait dit que le retour, selon le Rav Kook, le retour à la nature entraîne une ascension morale qui entraîne le retour de la prophétie.
Oui.
Ma question ici, c'est quel est l'arrière-plan métaphysique de Rav Kook pour raisonner ainsi et pour dire que le retour à la nature entraîne une ascension morale qui entraîne le retour des prophètes?
Très bonne question. La réponse est que le Rav Kook est monothéiste. Et comme il est monothéiste intégralement, c'est-à-dire qu'il reconnaît que toutes les dimensions de l'être sont nécessaires pour connaître le Créateur. Donc ça implique également le retour à la nature. Seulement, il est tout à fait conscient du fait qu'il fallait attendre l'achèvement de l'histoire pour le faire, c'est-à-dire l'achèvement de l'histoire exilique pendant laquelle nous avons vécu la sainteté individuelle, et à partir du moment où nous retrouvons notre dimension collective, nous avons la force de réintégrer la nature qui a été évacuée du sacré pendant le temps de l'exil. À ce propos, je pense à un enseignement de Franz Rosenzweig dans L'Étoile de la Rédemption, quand il dit que la Géoula, la délivrance et la rédemption, finalement, c'est la réconciliation entre l'homme et la nature. Il n'était pas véritablement sioniste, mais c'est ça, en fait, que le sionisme réalise. Cette réconciliation entre l'être humain collectif qui est la nation d'Israël et la nature, de telle manière que ça peut être après enseigné au niveau universel au monde entier. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés au terme de notre étude. Merci à David Altar pour la géniale idée de me faire parler de la sainteté d'Israël qui passe par la terre. Et nous nous retrouverons très bientôt. Shalom.
Oh, d'un rabat, Rav, chavoua tov.